Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et pour ce nouvel épisode, nous tentons de mieux comprendre la menace constante qui plane au-dessus de nos têtes, celle des cyberattaques. Pas une semaine ne se passe sans qu'une administration, un hôpital, une institution ou une entreprise ne soit ciblée par des cybercriminels ou délinquants qui cherchent par tous les moyens à monnayer des données dérobées. Comment quantifier et qualifier cette cybermenace polymorphe dans cet écosystème? Quel est le rôle précis des hackers éthiques qui mettent leur savoir-faire au service de la cybersécurité? La France, qui a inauguré il y a peu son campus cyber dans le quartier de la Défense, est-elle suffisamment armée pour contrer ces attaques? Qu'en est-il de l'Union européenne qui doit faire face à une menace accrue venue de la Russie ou de la Chine? Autant de menaces que de questions. Trois invités pour y répondre. Nathalie Loiseau, bonsoir. Vous êtes députée européenne, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen et autrice de La guerre qu'on ne voit pas venir. C'est sorti aux éditions de l'Observatoire, ça vient de sortir. Vous pourrez évoquer les failles de l'Union européenne en matière de cybersécurité et témoigner de l'évolution des pratiques diplomatiques autour des cyberattaques. Depuis Montréal, où vient de s'achever le Forum international de la cybersécurité. Yann Bonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint du campus cyber. Vous pourrez revenir sur la politique gouvernementale en matière de cybersécurité, parler de l'opportunité économique que représente le développement du secteur en France, tout en évoquant les liens entretenus avec les GAFAM. Enfin, Baptiste Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un hacker éthique et un dirigeant sans doute tout aussi éthique de l'entreprise Predictalab que vous avez fondée. Vous pourrez démystifier la figure du hacker et en tant que spécialiste, nous faire entrer sous le capot de la machine pour nous détailler les modes opératoires les plus répandus par les cybercriminels, tout en nous donnant quelques conseils pour la riposte. Au sommaire, également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie reviendra sur les clichés qui entourent les hackers, comme d'ailleurs les cybercriminels. Et ils sont nombreux. Merci vous aussi d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à l'antenne et à nous suivre en podcast sur l'application Radio France ou sur nos réseaux sociaux. Le meilleur des mondes, épisode 10, c'est parti.
Comment est-ce qu'on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit?
Dans la culture chinoise, on a une expression. Accomplir une grande tâche avec peu d'efforts par des manœuvres astucieuses. C'est un peu ça. Le hacking.
Mars 2021, vague de cyberattaques.
Depuis ce week-end, l'hôpital de Corbeil-Essonne en région parisienne tourne au ralenti. La cause, un piratage informatique de grande ampleur.
Les hackers ont divulgué sur leur site des centaines de données sensibles.
Derrière cette façade, des écrans noirs dans tout l'établissement.
Les administrations, les médias, les petites et moyennes entreprises ont eu à subir durant les derniers mois des attaques cyber.
Deux jours à peine après l'invasion russe, le vice-premier ministre ukrainien Mikhailo Fedorov a publié un tweet en anglais dans lequel il appelle les volontaires à créer une cyberarmée ukrainienne.
Nous sommes prêts à utiliser le cyber qui est une arme.
Un État qui recrute aussi ouvertement des mercenaires du web, c'est tout simplement du jamais vu.
Le ministère investit pleinement le champ du cyber avec des moyens financiers mais aussi humains. D'ici 2025, nous compterons 1000 cybercombattants supplémentaires.
1000 cybercombattants supplémentaires, nous dit Madame la Ministre des Armées. On verra si c'est suffisant pour contrer justement ces cyberattaques. Je le disais, qui prennent des formes très différentes. On va quand même essayer de les définir, au moins de les quantifier à grands traits. Yann Bonnet, est-ce que déjà on peut dire que ces attaques sont de plus en plus nombreuses sur notre territoire en France ?
Oui, je pense qu'on peut constater qu'on est sur une hausse du niveau de la cybermenace, mais peut-être rappeler que voilà, on est tous connectés et donc tous concernés par la cybersécurité. En fait, le numérique est partout dans notre vie, au niveau professionnel, au niveau de l'éducation, des transports. Et je reprendrai un peu la phrase qu'indiquait Bernard Stiegler quand il parlait de numérique. Il parlait de remèdes et de poisons pour notre société. Et on voit bien que le numérique en fait apporte de nouvelles menaces. Les motivations sont variées derrière ces menaces cyber. On a, vous l'avez dit, le gain financier avec des attaques de type ransomware qui augmentent de façon très très marquée, hein, entre 2019 et 2020, c'est une augmentation par 4 qui a été constatée par l'ANSSI. Mais c'est aussi des motivations de type espionnage politique, économique, sur des secrets industriels ou pire, déstabilisation ou sabotage pour faire dysfonctionner une société sur un système électrique, des transports, des télécoms en cas de conflit. Donc oui, effectivement, le niveau de menace augmente. La question, c'est plus de savoir si on va être attaqué, mais quand et si on va être assez résilient pour y faire face.
C'est ça, c'est plus est-ce qu'on va être attaqué, c'est comment et quand on va être attaqué, comment on va pouvoir se défendre. Robert, Baptiste Robert, vous qui êtes donc à cœur, que vous connaissez bien justement ces différentes attaques, est-ce qu'elles sont plus sophistiquées aujourd'hui qu'auparavant ?
Alors, pas forcément, c'est-à-dire que les vulnérabilités qui sont utilisées pour mener à bien ces attaques ne sont pas forcément des vulnérabilités qui sont plus complexes techniquement, ne sont pas forcément des attaques qui sont plus poussées. C'est juste qu'aujourd'hui, les cybercriminels, vous les appeliez tout à l'heure des délinquants, mais c'est vraiment des criminels au sens propre du terme, se sont organisés. De la même manière que dans l'imaginaire collectif, on a la mafia comme on l'imagine dans le parrain avec ses organisations, etc. Aujourd'hui, on a des organisations criminelles qui ont un pan cyber, qui sont organisées, qui font de l'argent et de l'argent de manière méthodique, systémique, et qui c'est un vrai travail à part entière. Et c'est pour ça que c'est une des choses que je fais aussi, que j'essaye d'évangéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cybercriminels qui se lèvent le matin, qui ont une famille, qui vont au travail de 8h à 17h et qui mènent des attaques. Et c'est un travail comme un autre pour eux. Et aujourd'hui, ils sont très bons parce que très méthodiques. Ils vont scanner l'intégralité d'Internet, aller vérifier si les services sont vulnérables à des vulnérabilités qui sont connues la plupart du temps. Et ensuite, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils regardent, ils pivotent dans le réseau interne des entreprises dans lesquelles ils rentrent et ils vont récupérer l'intégralité de données, chiffrer si nécessaire. Et en fonction, et Yann l'a très bien dit, en fonction de la motivation, si c'est de l'espionnage industriel, si c'est du ransomware, les actions vont être différentes. Si je veux pas me faire repérer, je vais rien dire et je vais rester dans l'ombre et écouter ce qui se passe. Et si je veux faire de l'argent, bah je vais récupérer les données, tout chiffrer et faire une demande de rançon.
Donc on voit effectivement qu'il y a des cybercriminels, j'ai évoqué les cyberdélinquants et cybercriminels parce qu'on voit que les menaces sont nombreuses et protéiformes aussi. Là vous parlez effectivement de réseaux totalement organisés, structurés, qui a bien compris les ficelles de ce marché. Nathalie Loiseau, vous aussi vous essayez d'évangéliser d'une certaine manière en ayant sorti cet ouvrage que je rappelle, La guerre que l'on ne voit pas venir, aux éditions de l'Observatoire. En tant que responsable politique, vous avez l'impression qu'on prend peut-être pas assez en considération cette menace, puisque apparemment on la voit pas venir, on veut pas l'avoir venir.
Mais disons que on se vit comme étant en paix, au moins en tout cas ici en France, alors que en réalité le cyber est un moyen de faire disparaître toutes les frontières. Les frontières entre les États, parce qu'on peut être attaqué depuis la Russie, depuis la Chine, depuis la Corée du Nord. Hein. On se souvient de WannaCry, c'est probablement partie de là. Les frontières entre le public et le privé. On parle de cybercriminels qui sont parfois des bandits de grand chemin du cyber, mais qui sont aussi et régulièrement utilisés par des États qui veulent affaiblir, diviser ou intimider leurs adversaires, qui attaquent aussi bien des entreprises que des administrations, des services publics, et qui cherchent la faille. Ça peut être, un petit sous-traitant de Thalès, et puis Thalès se trouve infecté.
Oui, c'est ça, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de grandes entreprises qui essayent d'avoir un service de cybersécurité assez important, mais ils travaillent avec quantité de sous-traitants qui peuvent des portes d'entrée,
exactement,
en fait.
Exactement, et ça se passe régulièrement. Donc cette frontière-là, publique, privée, n'existe pas. Et au total, la frontière entre la guerre et la paix non plus. Parce que les cyberattaques, c'est une forme de ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est-à-dire que c'est une guerre, c'est une agression qui est menée avec des moyens non militaires. Et du coup, ça passe sous le radar des opinions publiques, parfois même des décideurs qui pensent que bon, un ransomware sur un hôpital, c'est quelqu'un qui a voulu se faire de l'argent. Pas toujours seulement. On peut imaginer et on peut penser que quand vous êtes basé en Russie et que vous faites une attaque, une cyberattaque, c'est au moins avec la bienveillante négligence des autorités, voire avec l'encouragement des autorités.
Et vous nous dites que c'est pas forcément pour faire de l'argent, ça peut être aussi pour déstabiliser, ouais. Donc avant une entreprise étatique. Baptiste Robert, je sens que vous voulez réagir.
Alors tout à fait, parce qu'il y a beaucoup dans votre intervention, il y a beaucoup de choses en fait. Avant de parler de tous nos sujets qui sont extrêmement larges et sur lesquels on pourrait passer plus d'une heure, il faut déjà définir le vocabulaire. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés qui se font attaquer? Parce que la plupart des sociétés ont ce qu'on appelle une surface d'attaque très étendue. Qu'est-ce que c'est une surface d'attaque? Vous imaginez un périmètre, vous avez une base militaire avec une barrière, et la surface d'attaque, ça va être cette barrière. Quand vous êtes une petite entreprise, une TPE, un artisan avec 5 personnes, vous avez 3 ordinateurs, c'est assez facile de sécuriser parce que votre barrière est toute petite. Quand vous êtes un Thales ou un Atos ou une autre société extrêmement grande, vous allez avoir des sociétés un peu partout dans le monde, beaucoup de clients, beaucoup de sous-traitants, et de fait, votre surface d'attaque va être immense. Et pour les attaquants, ça va être beaucoup plus simple, puisque votre surface d'attaque est beaucoup plus grande, potentiellement, les trous de souris, les vulnérabilités vont être vous allez probablement avoir une vulnérabilité beaucoup plus facilement. Et il y a un deuxième sujet qui est distinct pour moi, qui est sur la notion du cyberespace. Aujourd'hui, vous parlez de guerre hybride. On a beaucoup vu lors du début du conflit en Ukraine, on voulait parler de cyberguerre. On va dire attention, vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir une cyberguerre, ça va être la fin du monde. En réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Plus que aujourd'hui, le cyberespace est un espace à part entière où la paix ne veut pas dire grand-chose. Les alliances politiques, les alliances dans le monde réel ne veulent pas dire non plus grand-chose. On a le droit aussi de s'espionner entre alliés. Et pour différentes raisons. Et il faut faire extrêmement attention dans ce qu'on dit, c'est-à-dire que toutes les attaques n'ont pas les mêmes motivations, tous les acteurs ne sont pas du même type. Vous avez des acteurs étatiques qui vont travailler directement pour des services de l'État. Vous allez avoir des acteurs qui vont être non étatiques mais affiliés à un État. Et vous allez avoir des indépendants, c'est un peu le freelance du cybercriminel, qui va aller travailler à son propre compte, pour ses propres motivations, pour sa propre idéologie, et parfois juste pour de l'argent, parfois juste pour défendre une idéologie qu'il croit bonne.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, dans les deux discours, on entend justement, et on comprend pourquoi parfois le public a du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on a parfois un grand fantasme de cette cyberguerre, et vous l'avez dit, d'ailleurs les médias jouent leur rôle aussi là-dedans, en disant attention, ça va être l'heure de la cyberguerre, tout va changer, etc. Et parfois, on ne les voit pas forcément venir. Le propre de ces attaques-là aussi, c'est qu'elles ne sont pas forcément visibles, que pendant très longtemps, il y a eu un déficit de communication, et je pense que ça existe toujours sur le fait de telle ou telle institution qui se fait attaquer, autant ne pas communiquer. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que ça va pas être le début d'une grande guerre, c'est que la guerre, elle est déjà là, elle est permanente, elle est à chaque instant, et on n'en voit qu'une toute petite, tout petit soupçon, finalement.
En fait, le cyber n'est qu'un moyen supplémentaire par rapport à ce qui se fait depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre froide, les pays se sont fait la guerre d'un côté comme de l'autre pour aller chercher l'information par des moyens humains principalement, mais il y a eu d'autres moyens. Et le cyber aujourd'hui est un moyen dématérialisé de faire exactement la même chose, d'aller chercher de l'information là où l'information se trouve.
C'est vrai, mais c'est aussi un accélérateur. Vous pouvez aller chercher de l'information à l'autre bout du monde sans bouger de chez vous. Donc c'est aussi un moyen d'agression dont le coût est relativement faible, et même très faible pour celui qui l'utilise, et extraordinairement élevé pour ceux qui en sont frappés, même si on a aujourd'hui un déficit en termes de culture de sécurité des entreprises, des administrations, des particuliers. Quand vous dites à une entreprise qu'elle devrait renforcer sa cybersécurité, si c'est une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne, sa première réaction va être de dire « ça coûte cher ». Si vous comptez combien ont coûté les cyberattaques en 2021, il y a une estimation, alors c'est très difficile, c'est une estimation, hein, mais qui tourne autour de 5 trillions de dollars. Ça veut dire que ce qu'on croit invisible ou ce contre quoi on n'est pas prêt à se prémunir coûtent collectivement dans le monde 5 trillions de dollars en une année.
D'ailleurs, justement, vous parlez des petites et des moyennes entreprises. On rappelle que c'est d'ailleurs les cibles les plus touchées par les rançongiciels. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'entreprises, petites hein, entreprises, qui n'arrivent pas à se remettre d'une attaque. Donc c'est là où, effectivement, on peut rejoindre cette idée que c'est peut-être pas très cher, entre guillemets, le coût du mois de départ pour pouvoir faire une attaque est peut-être pas très important. Mais par contre, les conséquences peuvent être assez graves pour les petites et les moyennes entreprises. Juste, Yann Bonnet, depuis Montréal, où vous êtes toujours... votre campus a été inauguré en février, donc en France. Donc là, j'imagine que c'est un signal fort qui est envoyé de la part de l'État pour essayer de concentrer ces entreprises de la cybersécurité pour dire attention, la menace est importante, elle est constante, mais nous sommes là.
Effectivement, on l'a dit là, tout à l'heure, et voilà, la menace est énorme. C'est quasiment à toutes les 11 secondes qu'il y a une attaque de type rançongiciel. Les PME, vous l'indiquiez, hein, sont très ciblées. Il y a 60% de faillites dans les 6 mois après une attaque. Hein. C'est assez monstrueux. Et donc, effectivement, le gouvernement, en fait, a décidé d'accélérer, d'annoncer une stratégie d'accélération sur le domaine de la cybersécurité. Il a confié, le président de la République a demandé au Premier ministre de confier une mission à Michel Vandenberg, qui est le président du conseil du campus cyber, qui est un entrepreneur. Et il lui a demandé en fait, de rassembler l'écosystème au sein de ce lieu, ce nouveau lieu totem, pour mieux fédérer l'écosystème et pour être plus fort ensemble. C'est vraiment voilà, l'essence même du campus. La raison d'être, c'est de fédérer tous ces acteurs. On a plus de 3000 experts qui ont la possibilité de venir dans ce bâtiment. Et de mutualiser les forces. On a 3 grosses missions. La première, c'est les talents, c'est attirer et former les talents de demain. On est en fait les chiffres sont assez, le constat est assez incroyable. On a plus de 15 000 postes non pourvus.
Oui, il manque des gens. Il manque des gens.
Voilà, il manque des gens. On a, on peut constater qu'on a seulement 11% de femmes qui travaillent dans la cybersécurité. Donc on se prive de la moitié des cerveaux sans aucune raison. Et donc on a voilà, on a un gros travail sur l'attractivité des métiers de la cyber qu'on doit faire et sur lequel on veut avancer au niveau du campus pour montrer en fait tout le sens qu'il y a, et c'est assez noble de défendre sa nation, ses entreprises, ses hôpitaux. On est vraiment dans le métier du care, de la protection, et ça on doit beaucoup plus communiquer là-dessus. Donc ça c'est vraiment le gros enjeu. Et concrètement au campus là, ces dernières semaines on a sensibilisé plus de 500 enseignants, on est en train de faire des différentes campagnes. Voilà, donc ça c'était la première mission du campus. La deuxième mission du campus, c'est de mobiliser, d'animer l'écosystème. Et ça, c'est vraiment la raison d'être du campus, je le disais, c'est réaliser ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Et on a mis en place en fait une méthode. On a plus de 650 experts qui travaillent sur différents groupes de travail pour créer ce qu'on appelait des communs de la cyber. C'est des ressources mutualisées qui vont permettre à l'ensemble des acteurs, à la fois les acteurs publics, les petites entreprises, les grands groupes, les écoles, les chercheurs, parce qu'on a tout ça en fait.
Pardon, je vous interromps deux secondes, Yann Bonnet, parce que c'est intéressant l'image des communs des cyber, parce que ça peut sembler un peu paradoxal comme à vue de nez de parler de communs concernant le cyber, parce que dans le cyber s'entoure quand même une forme d'opacité qui est quand même liée justement à la cybersécurité et à la manière dont on doit préserver les données, alors que le commun justement est dans le partage. Donc je trouve que l'image est intéressante. Mais je comprends ce que vous voulez dire.
Vous avez raison, et en fait c'est une grosse surprise, et je pense que c'est un changement de culture qu'on est en train de voir au sein de l'écosystème cyber, même si l'open source est très présent depuis des années. Mais l'idée, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est face à des attaquants qui sont extrêmement, et c'est ce que disait Baptiste, extrêmement organisés, qui sont professionnalisés. On parle de ransomware as a service. C'est voilà, des professionnels. Hein, on est loin du jeune étudiant dans sa chambre. Face à ces attaquants, on a le constat qu'on a fait, c'est qu'on a un écosystème qui est très fragmenté en France, en Europe, au niveau international. Et c'est pour ça que, en fait, notre méthode au sein du campus, c'est de dire on doit mettre de l'intelligence collective. On doit beaucoup plus travailler entre acteurs publics, acteurs privés, pour mutualiser nos forces et pour inverser le rapport de force par rapport aux attaquants. C'est plus possible. On a besoin en fait d'avoir beaucoup plus confiance dans cette transformation numérique. Et voilà, c'est vraiment l'essence. Les communs, c'est vraiment une grosse surprise. Les communs de la cyber, ça fonctionne énormément.
Baptiste Robert, oui.
J'ai une question et une réponse.
Vous avez la question et la réponse.
J'ai une réponse et une question. et un commentaire, on l'appelle comme on veut, et particulièrement pour sur la notion de commun. La notion de commun, c'est un mot qui a vraiment du sens et qui est aujourd'hui qui est martelé politiquement principalement, notamment contre la lutte contre les GAFAM, et aujourd'hui qui a été et vous m'arrêtez Yann si je dis des bêtises, mais et qui aujourd'hui qui a été repris effectivement dans cette politique cyber qui est menée et qui est avec une vraie mission et avec une vraie portée aujourd'hui. Et c'est une question que je lève en l'air et j'ai mon opinion sur la question.
Allez-y.
On parle de commun, qui est quelque chose de très bienveillant, je vais pas parler de bisounours, mais
revient un peu à l'utopie aussi, voilà, d'internet,
qui est très utopique de dire on partage la connaissance, on est tous ensemble, on se met ensemble. Mais la réalité, elle est que aujourd'hui le cyber, l'infosécurité, l'infosec est une industrie qui pèse plusieurs milliards, qui est extrêmement concurrentielle. Et aujourd'hui on a des littéralement des entreprises, que ce soit françaises, américaines, israéliennes principalement, qui vont être des concurrents et qui vont pas forcément se mettre ensemble et qui ne vont pas forcément adhérer à cette utopie, à ce commun, à cette bienveillance, plus que ils ont certes cette volonté de lutter tous ensemble, mais en même temps il y a l'aspect économique qui revient et qui dit bah il y a un moment donné il faut gagner de l'argent. Et est-ce qu'on n'est pas un peu trop en France un peu trop bienveillant sur ces questions-là et qu'on a tendance à se faire trop la guerre, alors que par exemple des sociétés américaines ont bien compris que l'union fait la force et qu'ils vont s'allier entre eux.
Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une dimension européenne, c'est pour ça qu'on travaille en ce moment sur un projet de règlement qui consiste à obliger les entreprises qui fabriquent des produits connectés, d'une part, à s'engager au maximum de niveaux de cybersécurité accessible au moment donné et sur la durée de vie du produit, si elles veulent le vendre dans l'Union européenne. Donc on ne pourra plus vendre, en le sachant, des produits vulnérables sans l'avoir expliqué. Dire aux consommateurs ce qu'il achète, comment protéger l'accès à ces données par ces produits, faire connaître les vulnérabilités, parce que ça fait partie de la boîte noire, la plus noire. On ne découvre en fait que par hasard qu'un produit a une vulnérabilité. On ne pourrait jamais le faire au niveau national.
Mais
on peut essayer de le faire.
Alors attendez, parce que pour reprendre l'intérêt du débat, je reprends la question soulevée par Baptiste Robert, qui reprenait un petit peu ce que je disais sur la question du commun, c'est-à-dire le partage, mais comment se partager lorsqu'on a un secteur concurrentiel. Vous voulez rebondir justement, Yann Bonnet, par rapport à ça, sur la question du côté un peu français, peut-être un peu trop bisounours, si je reprends les mots de Baptiste Robert, rapport à notre attitude.
Ouais. Je pense qu'il faut pas de naïveté, mais en fait, moi, le constat que je fais, c'est il y a quelques années, le notion de commun peut-être faisait un peu bisounours, c'était vu comme quelque chose d'idéologique. Moi, le constat qu'on peut faire au sein du campus, c'est que c'est devenu logique, dans le sens où là, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plus de 650 experts de 180 entités françaises et européennes qui travaillent là, dans ces groupes de travail. Un exemple, justement, et Baptiste le rappelait, au début du conflit ukrainien entre l'Ukraine et la Russie, on s'inquiétait énormément. Nous, on était très inquiets, notamment, non pas pour les grands groupes, mais pour les PME. Et donc, en quelques semaines, avec un certain nombre d'acteurs, et notamment Sequoia, on a constitué une plateforme de renseignement cyber pour pouvoir être en capacité d'aider les PME si c'était le cas. Ça, on est en train de faire plus largement une plateforme de renseignement pour l'avenir. On travaille sur des sujets en IA et en cyber aussi. En fait, on voit que même les GAFA en fait utilisent ces méthodes d'intelligence collective, de communauté, de contribution pour innover. Donc moi je pense vraiment en fait qu'on est passé de quelque chose d'idéologique à quelque chose de logique, et je peux témoigner de l'intérêt des boîtes.
Allez-y Baptiste, rapidement.
Sur ce point-là, en fait, on parle effectivement de commun pour du partage de connaissances. Mais est-ce qu'il serait pas temps en France d'utiliser cette matière grise commune, d'utiliser cette compétence, et effectivement les GAFAM font de même, pour créer justement ces super entreprises, ces très grosses entreprises pour venir concurrencer sur le domaine européen, sur le domaine mondial, justement, les gros porteurs américains qui, eux, s'allient. Aujourd'hui, on est certes dans le partage de connaissances, et c'est une chose qui est très bien, et il faut le continuer, et c'est des super initiatives. Mais est-ce que il y a un moment, c'est là où le business reprend un petit peu ses droits, de dire, est-ce qu'il serait pas temps d'utiliser ce commun pour créer une super entité, tous ensemble, et qu'on aille concurrencer un peu et inonder le marché mondial.
Mais attendez, Yann Bonnet, il me semble quand même que dans votre campus, il y a aussi un public privé. C'est-à-dire que c'est le but du jeu, c'est aussi d'incuber, d'avoir des nouveaux acteurs. Vous accueillez à bras ouverts les entreprises et les initiatives privées.
Complètement. Et puis, pour répondre à Baptiste, je suis complètement face avec lui. C'est vraiment l'idée de ces communs. C'est, il faut, la France, si on pense que l'innovation est liée aussi à une capacité à lever de l'argent, on voit que, en fait, la France, on doit rester humble par rapport à certains géants du numérique qui ont des capacités financières énormes pour innover. Les communs, c'est aussi un moyen d'innover collectivement. On voit, un certain nombre, et on a des projets sur des plateformes d'IA, sur des différents sujets, d'essayer de travailler l'innovation ensemble. Et pour vous répondre, effectivement, le campus cyber, hein, c'est plus de 250 entités, c'est une initiative privée-publique. On y retrouve des très grands acteurs de la cyber, des startups, mais aussi des non-pure players. On a la moitié du CAC 40. La communauté bancaire s'active énormément en ce moment au sein du campus pour partager des informations, mais aussi pour étudier des innovations qui se font notamment en France et voir comment elles pourraient les utiliser au mieux pour mieux se protéger. Donc on pense vraiment en fait que via ce modèle, on va avancer. Et au sein du campus, effectivement, et c'était le troisième objectif du campus, c'est d'aider à innover et à faire rayonner l'excellence française. On a plus de 40 startups au campus. On a un programme de transfert avec des acteurs de la recherche comme l'INRIA, le CNRS, le CEA, l'IMT qui va faire du transfert de technologie avec des industriels et des startups. On a différentes structures, un startup studio pour aider des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais créé une startup ou une entreprise, donc qui les aident à créer cette startup. Et puis ensuite, on a un accélérateur, un incubateur qui va bientôt être installé au campus, qui va permettre à d'autres startups d'attaquer. Et c'est un des choses qu'on essaye de mettre au sein du campus, c'est d'avoir cet esprit conquérant pour montrer l'excellence française et aller sur des nouveaux marchés au niveau européen et international.
Nathalie Loiseau, justement, vous parliez tout à l'heure de l'Europe à bon escient, sur le rôle que doit jouer justement l'Europe. Alors, on comprend effectivement la déclaration d'intention, en tout cas, de Yann Bonnet par rapport à ces trois objectifs de ce campus français pour promouvoir l'excellence. On voit aussi, quelque part, on n'est pas tous naïfs, qu'on est petit finalement par rapport à des grands géants qui sont des géants américains. Donc c'est là où forcément l'Europe souvent doit rentrer en ligne de compte. Comment fait-on pour que l'Europe puisse accompagner, compter aussi dans cet écosystème?
Alors d'abord, il y a une prise de conscience qui était nécessaire, qui est là. L'Europe, sur le numérique, essaye de s'imposer pour éviter d'être attiré vers un système américain, soit attiré vers un système chinois. Donc on essaie de créer globalement un modèle numérique européen. Sur les questions de cyberdéfense, on attend la semaine prochaine des annonces de la Commission européenne sur lesquelles on ne sait rien. Et j'ai encore vérifié ce soir pour voir comment est-ce qu'on allait forcer en réalité des États qui considère que tout ce qui relève de la défense, relève de la souveraineté nationale, à partager, là encore, leurs bonnes pratiques, leurs moyens de riposte, à être solidaires les uns des autres, parce qu'une cyberattaque étatique touchant un petit pays européen sera forcément contagieuse sur les autres. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Je parlais de ce qu'on faisait sur les fabricants qui veulent vendre des produits.
Là, c'est plutôt du côté du consommateur. C'est-à-dire faire en sorte que le consommateur, lorsqu'il achète un objet connecté, soit un objet le moins vulnérable possible.
Aussi fiable que possible, comme en fait n'importe quel type de produit que l'on consomme dans l'Union européenne. C'est pour le consommateur, mais pas seulement. Si l'Union européenne peut devenir un lieu de cybersécurité supérieure au reste, c'est un booster pour la crédibilité de l'Union européenne. Donc c'est pour le consommateur, mais pas seulement.
Ça reste une utopie.
Ah, c'est... ça reste une utopie.
Nous dit Baptiste Robert.
Ça n'a pas été tenté. Ça n'a pas été tenté, mais c'est nécessaire.
En fait, le problème
qui change, je voudrais juste.
Allez-y, terminer, puis après on le Baptiste.
Quand on est 450 millions de consommateurs, il faut arrêter de penser qu'on est petit. Il faut arrêter de penser qu'on ne pèse pas. On intéresse forcément, y compris les grandes entreprises américaines, parce qu'ils ne veulent pas perdre ce marché européen. Si demain on leur dit, écoutez, on veut être certain que les PC qui sont vendus dans l'Union européenne, les téléphones portables qui sont vendus, les montres connectées ne sont pas bourrées de failles et on va vous poursuivre et vous serez juridiquement comptable de ce que vous aurez affiché, croyez-moi, ils vont y prêter attention. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. On a accepté de considérer pendant des années que les iPhones n'étaient pas fiables. Alors après, la culture de sécurité d'Apple a augmenté. Mais on ne sait pas peser avec le poids de notre marché. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à faire.
Mais alors, pourquoi c'est une utopie, Baptiste Robert? Parce que l'Europe a beau être un marché conséquent, et elle a dû se faire entendre. Allez-y.
Je suis en désaccord sur beaucoup de points à ce niveau-là, puisque le cyberscore, ce que vous évoquiez pour les consommateurs.
Alors, cyberscore, juste parenthèse, c'est un peu de la même manière que le Nutri-score, c'est-à-dire d'évoquer que tel ou tel produit est sécurisé et que le consommateur puisse être informé sur le degré de sécurité du produit.
Exactement. C'est l'idée qui est évoquée précédemment et comment ça se passe, la sécurité? La sécurité, c'est avant tout des hommes et un peu de femmes, comme disait Yann tout à l'heure, malheureusement, qui font leur travail et qui essaient de développer des produits les plus sécurisés possibles, les plus fonctionnels possibles, et qui les mettent en vente avec des contraintes de temps qui peuvent varier. On ne met pas des failles de sécurité de manière délibérée la plupart du temps. Et quand on va mettre son produit sur le marché, on va le faire de bonne foi en disant, bah oui, mon produit n'a pas de faille.
Vous avez eu des entreprises pour qui la sécurité n'était pas
une priorité. Mais là, juste expliquez-nous, Baptiste Robert, rapidement, en quoi c'est une utopie pour qu'on comprenne bien le fond de votre idée.
Le fait est que, pour avoir trouvé moi-même des failles, par exemple, sur les téléphones OnePlus, les téléphones OnePlus vendus dans le monde entier avec des millions d'exemplaires, et il y avait une faille de sécurité critique. Ils ne l'ont pas fait par volonté, ils l'ont pas fait, et ils ont fait tous les checks. Ils ont des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, qui travaillent sur ces produits-là et qui tous les jours essaient de trouver des failles de sécurité. Donc c'est pas un problème de posture, c'est pas un problème de volonté, c'est que la sécurité, c'est comme ça. La sécurité, c'est quand on commence à creuser sur un sujet, on va forcément trouver des failles. Mais c'est une question d'effort et de se dire, bah, je vais creuser. Et quand vous avez un téléphone portable, par exemple, qui est immense en termes de logiciel, trouver des failles de sécurité, il y a beaucoup d'endroits où chercher. Et je reviens sur le fait de l'Europe. L'Europe est un marché important, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, la posture, et c'est là où je pense la place du politique est aussi, c'est de se dire, aujourd'hui on voit que, par exemple, on a donné du matériel Huawei. Sur toute la polémique sur Huawei qui a été faite, du matériel Huawei a été donné à des élus, que ce soit dans différents pays. On a des élus.
Au niveau de l'Union européenne, justement.
On a des élus qui utilisent Telegram, des élus qui utilisent WhatsApp. Aujourd'hui, on a des gens très bien en France, que ce soit ma société, Predictalab, que ce soit la Cyber Task Force, qui font des formations très bien et qui sont capables aujourd'hui d'aller expliquer aux élus, de leur dire, voilà, on vous donne 2 heures et on vous explique pourquoi c'est pas bien. Et il faut ces formations-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut porter. Et je pense que le campus cyber peut être aussi porteur.
Oui, mais on est d'accord que c'est pas demain qu'on va retirer tous les iPhones qui sont utilisés par les personnes politiques, ou le WhatsApp, ou les messageries chiffrées, etc.
On veut pas retirer l'iPhone. Et c'est là où il faut faire attention. La sécurité, ce n'est pas que des contraintes. C'est de l'explication, c'est de la sensibilisation, c'est une posture.
C'est apprendre, ne serait-ce qu'en avoir la connaissance des limites et des propres failles de ces appareils.
On a tendance à dire la faille de sécurité, elle est entre le fauteuil et l'écran. C'est la personne qui va faire ce que raisonnablement elle n'aurait pas dû faire, utiliser une messagerie qui n'est pas sécurisée en croyant qu'elle l'est, regarder ce qui est arrivé, parce que à la ministre de l'Intérieur britannique qui avait renvoyé sur sa messagerie privée des messages professionnels. C'est d'abord une culture.
Et je crois d'ailleurs que dans votre ouvrage, vous parlez d'une réunion de la plus haute importance où quelqu'un s'était introduit dans une visio, ouais. Alors qu'il n'avait rien à faire là, ce qui prouvait
la ministre de la Défense des Pays-Bas participé à une visio des ministres de la Défense de l'Union Européenne. Elle avait pris une photo d'elle-même parce qu'elle était fière de ce qu'elle faisait. C'était pendant le confinement.
Ouais, elle avait publié sur les réseaux.
Elle avait publié sur Twitter. Sur son écran, il y avait le login et le mot de passe de la réunion. Donc, voilà, heureusement, comment... c'était un journaliste sympa.
Voilà, qui est venu et qui s'est introduit dans une réunion ultra sécurisée. Voilà. Donc, effectivement, ça fait partie justement un peu des modalités que vous pouvez employer, vous, Baptiste, en tant que hacker éthique, pour montrer les failles avant que celles-ci soient utilisées par des forces bien plus malveillantes. Tout de suite, Philippe Catherine n'est pas du tout malveillant, il est bienveillant, il nous emmène avec sa musique d'ordinateur dans Le meilleur des mondes et on poursuit juste après notre passionnante discussion. Et un peu de poésie avec Philippe Catherine et sa musique d'ordinateur qui arrive comme ça dans l'ordinateur et la matrice du meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on ouvre ce journal par un milliardaire tout puissant qui fait régner l'ordre et une certaine forme de terreur au sein de son nouveau jouet à l'effigie d'un oiseau bleu. Oui, je parle bien d'Elon Musk, qui après avoir nourri un feuilleton médiatique sans fin autour du rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, passe maintenant des paroles aux actes avec brutalité. Cela fait à peine une semaine qu'il est là et il a déjà renvoyé le patron et une grande partie des cadres dirigeants du réseau social pour s'offrir les pleins pouvoirs. Et depuis hier, ce sont les 7500 employés qui sont menacés. Ils devraient en licencier prochainement la moitié. Les salariés viennent de l'apprendre par un simple mail interne. Des employés ont vu leur mot de passe changer et l'accès à leur bureau désactivé. D'ailleurs, depuis ce matin, peu de salariés peuvent entrer au siège le temps qu'Elon fasse le ménage. Accompagné de développeurs de Tesla chargés de désigner les bons ou mauvais élèves, Musk a fait de Twitter sa forteresse et coupe les têtes. La résistance s'organise. Des annonceurs publicitaires entendent boycotter la plateforme. Bon, parions que ça ne durera malheureusement qu'un temps. Et un collectif de salariés a déposé une plainte collective devant le tribunal fédéral de San Francisco pour violation de la loi américaine, car ce licenciement massif se déroule sans aucun préavis. Promouvoir la liberté d'expression et la défense du peuple en se comportant comme un dictateur, Elon Musk rejoue une sombre chanson et ce n'est malheureusement qu'un triste début.
What is life for Elon Musk? Is it a dream?
Restons à San Francisco en passant d'un siège à l'autre et partons chez Facebook qui vient aussi d'annoncer la suppression de plusieurs postes qui concernent son service d'actualité Facebook News France. À partir du 1er janvier 2023, une dizaine de CDD seront supprimés chez nous. Des contrats de journalistes qui étaient chargés jusque-là de sélectionner et d'éditer des articles de presse. Avec un contrat qui était confié à une filiale de l'AFP, Facebook entend réduire ses coûts et délaisse le champ de l'information, un domaine qui ne semble pas être sa priorité. Le même service aux États-Unis en partenariat avec le New York Times est également sur la sellette et devrait s'arrêter prochainement. Et devinez par qui ces journalistes de chair et d'os vont-ils être remplacés ? Eh bien par des algorithmes, évidemment. Voilà qui ne devrait pas enranger la prolifération des fake news. Mais après tout, en quoi la désinformation est-elle un problème pour Facebook ?
Fake, disgusting news.
Et on termine par un aveu formulé par TikTok, le réseau social chinois qui reconnaît que les données de ses utilisateurs européens peuvent être consultées par un nombre restreint de personnes dans plusieurs pays, dont la Chine. Voilà qui met fin à une suspicion tenace depuis l'essor de la plateforme. Nous pouvons enfin affirmer que Pékin a un droit de regard sur les données des Occidentaux de TikTok, la porosité entre le régime communiste et les entreprises n'étant plus à démontrer. Si TikTok l'affirme aujourd'hui publiquement, c'est sans doute pour anticiper et éviter une éventuelle sanction européenne. Musk qui licencie à tour de bras Facebook, qui supprime des journalistes pour des algorithmes et les données des TikTokers occidentaux en accès direct à Pékin. Pas de doute, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Alors nous poursuivons notre débat passionnant et vaste sur les menaces qui planent liées aux cyberattaques et surtout on va aborder maintenant la question des solutions pour tenter d'y remédier. Je suis toujours accompagné de Nathalie Loiseau, de Yann Bonnet ainsi que de Baptiste Robert pour cette grande discussion. Baptiste Robert, vous en tant que hacker éthique, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le définir mais je l'explique en un instant, c'est qu'en gros vous êtes quelqu'un qui savait trouver les failles dans des systèmes de sécurité, vous savez hacker, il y a différents d'hackers, il y a les acteurs criminels dont on a beaucoup parlé depuis ce début d'émission, puis il y a des hackers qui ont qui s'offrent la liberté, je crois que vous appelez un hacker un peu gris si on doit donner une couleur, c'est-à-dire que de parfois aller pointer du doigt certaines failles sans forcément en avoir l'autorisation, mais le tout pour évidemment renforcer la vigilance et garantir une certaine cybersécurité. C'est bien ça, on est d'accord?
Exactement.
Et alors par rapport à TikTok, juste pour rebondir sur cette dernière information de ce journal qui va d'ailleurs vous intéresser tous les trois et vous aussi, Nathalie Loiseau, évidemment, quand vous parlez de la puissance chinoise, j'imagine que c'est pas une grande surprise de savoir que Pékin pouvait avoir accès aux données des utilisateurs européens et occidentaux, sauf que maintenant il l'avoue. Concrètement, quels sont les risques? On a du mal aussi là, encore une fois, à trouver le bon point entre les fantasmes et puis entre la réalité du danger pour que, à ce que Pékin puisse avoir accès à des données des utilisateurs.
Alors, il faut déjà expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'en réalité, il y a trois TikTok. Il y a un TikTok chinois, il y a un TikTok pour l'Asie et il y a un TikTok pour le reste du monde. Ces trois TikTok, ces trois versions de TikTok sont basées sur le même code. TikTok, comme toutes les grosses entreprises, a une infrastructure qui va être distribuée. C'est-à-dire que quand vous allez être en France sur TikTok, les données qui vont être envoyées sur des serveurs qui vont être sur votre territoire, en France ou en Europe, principalement pour des questions de performance. Ça va plus vite, plus vous êtes près du serveur, plus ça va vite. Ensuite, la question, c'est que c'est une entreprise privée. Effectivement, ils ont des serveurs partout. Après, la question est où va la donner. C'est-à-dire que si je suis un Américain sur TikTok, je l'envoie à un serveur américain, mais après le serveur américain peut très bien transférer la donnée dans ce qu'on appelle un data lake, donc c'est un lac de données où on va entreposer la donnée. Aujourd'hui, de fait, quand vous êtes un réseau social, que vous faites par exemple de la modération, que vous voulez un minimum de contrôle, vous avez besoin d'avoir des équipes qui peuvent être parfois en France, qui peuvent être parfois dans un pays en Inde, qui peuvent être, on en a à Madagascar, on en a au Pakistan, très souvent, c'est des sociétés de ce type-là qui font la modération. Elles ont besoin d'accéder à la donnée des utilisateurs. Que l'utilisateur soit américain, français, européen, quoi que ce soit, ils ont besoin d'accéder à la donnée. Et donc, il y a une centralisation de l'information à un moment donné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous centralisez la donnée d'un réseau social, qui va avoir accès à cette donnée? Comment? Et c'est extrêmement important. Quand vous avez des employés en Chine, en Europe, aux US, comment, pour une très très grosse structure, vous allez gérer l'accès à cette donnée centralisée.
Mais là, ce que nous dit justement TikTok, c'est qu'il y a bien des gens, d'un nombre restreint, c'est ce que vous évoquiez, qui sont dans différents pays, dont la Chine, et qui ont accès justement aux données des Européens et sans doute des Américains. Et on sait très bien que ça a été l'objet de nombreuses polémiques et d'ailleurs d'une guerre aussi informationnelle, en se disant, on se rappelle de Donald Trump qui voulait interdire TikTok parce qu'il disait que TikTok espionnait les Américains.
En fait, c'est la traite. C'est sur ce passage-là, que j'ai beaucoup étudié. Trump l'a utilisé comme une menace pour la nation américaine, etc. Il y avait une posture politique.
Il y avait une instrumentalisation, mais j'aimerais avoir votre regard d'expert, la réalité de la menace.
La réalité de la chose, elle est que la menace, la problématique, elle vient dans le traitement de la donnée. Si, effectivement, dans le traitement et dans le transfert de la donnée, si aujourd'hui, et on le sait, il y a une porosité folle entre les entreprises privées chinoises et le gouvernement chinois.
Il y a plus que ça, il y a une loi chinoise qui exige qu'une une entreprise privée donne ses données à l'État chinois en cas de risque de sécurité.
Face à l'allégeance, régime.
C'est la même chose pour Huawei, c'est la même chose.
Exactement, et culturellement,
les champions nationaux. Voilà, culturellement, ça va de soi là-bas. Donc, et pour avoir discuté avec plein de personnes là-bas, culturellement, ça va de soi. Et effectivement, si aujourd'hui la donnée de TikTok est centralisée à un endroit donné, c'est une entreprise chinoise qui centralise les données de tous ses utilisateurs, quel que soit l'endroit dans le monde. Et effectivement, il y a un transfert de données. Et derrière, la personne qui va récupérer ou l'entité qui va récupérer les données va pouvoir processer
les exploiter,
ces données,
exactement comme les exploiter. Comme le désire.
Et si demain vous faites une vidéo sur la fast fashion qui utilise du coton cultivé par des détenus ouïghours, le gouvernement chinois aura les données sur la personne qui a fait la vidéo, etc.
Et pourrait éventuellement la retrouver.
Donc c'est un contrôle social déployé à un niveau mondial.
Justement, Nathalie Loiseau, vous parlez de TikTok, évidemment, dans votre ouvrage « La guerre que l'on ne voit pas venir ». Comment l'Europe peut jouer justement un rôle dans la protection de ces données? Ça fait partie justement des missions de l'Europe. On a des nouveaux textes qui vont arriver en janvier 2023.
Qui vont être mis en œuvre, exactement, le Digital Service Act en particulier, qui veulent imposer aux grandes plateformes, avec des règles qui sont plus dures pour les géants du secteur que pour les plus petits, qui veulent leur imposer à la fois une obligation de modération, une obligation de moyens et de résultats sur les contenus et une obligation de protection, je dirais, de l'utilisateur européen. C'est la réponse un peu bravache qu'a fait le commissaire européen Thierry Breton au rachat de Twitter par Elon Musk en disant qu'il contrôlerait la manière dont l'oiseau bleu volerait. Un peu bravache, parce que quand on en sera à des procédures judiciaires, je pense qu'il y aura des querelles d'avocats et que ça sera pas si simple que ça de faire plier Elon Musk. Je suis pas en train de dire on a trouvé avec le DSA la solution miracle. Elon Musk a montré patte blanche en disant qu'il se conformerait à la réglementation européenne. Je pense que le Digital Service Act est un premier pas, qu'il est probablement insuffisant. Je ne suis pas choquée qu'on avance pas à pas dans un secteur d'abord qui est extraordinairement complexe et où notre souci, c'est évidemment de maintenir la liberté, de ne pas devenir les censeurs d'Internet. Mais quand on entend un Elon Musk, quand on voit les pratiques de TikTok, on comprend aussi que l'utopie d'un Internet par définition vertueux, qui allait s'autoréguler et à qui on pouvait faire confiance.
On en est effectivement très loin. Mais d'où justement l'utopie dont parlait tout à l'heure Baptiste Robert par rapport justement à la volonté de l'Europe de pouvoir se protéger. Pour continuer sur les sujets qui fassent, Yann Bonnet toujours avec nous depuis Montréal, justement en Amérique du Nord, dans cet entre-deux-mondes, à la fois une culture et une langue française, mais portée vers les acteurs nord-américains. La question du cloud et de la souveraineté des données, on peut aussi la poser par rapport à la question européenne. C'est que, pour reprendre justement ce que disait Baptiste Robert, c'est qu'on veut défendre une idéologie, on veut parler d'excellence française, je reprends vos mots, Yad Bonnet, et pour autant, on voit bien qu'on a un mal fou à se passer de ces outils-là, car un, ils sont performants, ils sont existants, et ils ont déjà fait preuve de leur efficacité. Donc on revient toujours un peu à la même situation, c'est-à-dire qu'on a envie de prôner une excellence, il y a une déclaration d'intention, puis après il y a un pragmatisme qui fait que finalement on va utiliser Microsoft pour garder nos données.
Et on a des exactement. On a des personnalités publiques qui disent que la France n'est pas en capacité technique de produire des technologies équivalentes. Voilà. Et c'est ça le plus grave.
Complément de Baptiste Robert et Yann Bonnet, on vous écoute.
Voilà, je pense qu'il faut, c'est un débat qui est passionné, il faut essayer de sortir un peu de l'idéologie. Pour moi, tout ce qui est sujet de souveraineté ou d'autonomie, on parle d'autonomie au niveau européen, la souveraineté, pour moi, c'est la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Dans le cyber, c'est aussi important d'être maître de son destin. On a des risques de dépendance vis-à-vis de certains pays. Et le jour où il y a un conflit, ou une pandémie, ça peut entraîner des pénuries, on l'a vu encore récemment. Donc, ce qui est important, important, en fait, c'est, il me semble, d'avoir une approche équilibrée, pragmatique, probablement en ayant un peu une approche en fonction des risques pour notre nation. Donc, sur certains systèmes qui sont critiques, notamment pour notre nation, ben, c'est important d'avoir des solutions souveraines. Et là, l'État a un rôle probablement important de soutien des acteurs privés dans l'achat public, notamment. On peut voir depuis des années, hein, on le dit, on voit aux États-Unis hein, un pays qui est très protectionniste, hein, malgré ce qu'on pourrait penser, avec le Buy American Act, le Small Business Act, qui aide notamment les PME ou les administrations françaises, les administrations américaines à acheter américain. Mais ça, c'est extrêmement important, en fait, que quand on a des solutions françaises qui existent, qui sont de qualité, bah, il faut les utiliser, et qu'on soit acteur privé ou public. Et quand elles n'existent pas, et bah, c'est important d'être résilient, c'est-à-dire de pouvoir être en capacité de changer de fournisseur s'il y avait une difficulté.
Pour bien comprendre, excuse-moi Yann Bonnet, je vais prendre un exemple aussi qui a fait polémique, la DGSI qui va utiliser justement Palantir pour l'usage de ces données Big Data, donc Palantir, Peter Thiel, américain, etc. Ça veut dire que, si je comprends bien, c'est qu'on n'a pas de solution française ou européenne à la hauteur de Palantir.
Bah, en tout cas, il faut, et l'État le fait. D'ailleurs, là, au sein du campus cyber, il y a eu une annonce la semaine dernière. On va travailler énormément sur le sujet de l'IA et de la cyber avec une plateforme d'IA. Et c'est extrêmement important de pas être dépendant de certains services, de pas être dépendant de solutions qui sont.
D'accord. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, on l'est. Baptiste Robert, rapidement, vraiment, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Alors, très rapidement, effectivement, aujourd'hui, c'est un marché que je connais assez bien pour travailler sur la question à différents égards, on n'a pas d'équivalent à Palantir au niveau européen. L'État, et c'est là où l'État, l'Europe également, doit pouvoir aider, et Yann Bonnet l'a très bien dit, doit pouvoir donner les moyens au secteur privé, que ce soit par la commande publique, mais également par la technologie, par l'aide technologique, et de pousser tous ces acteurs privés à créer un concurrent.
En réalité, c'est en cours, mais on pourrait presque faire une émission là-dessus, parce que c'est en cours depuis des années, ça coûte des centaines de millions, et ça a pris beaucoup de retard.
Mais pendant qu'on prend du retard et qu'on essaie de le combler, pardon, on a tel l'oiseau, les autres continuent à avancer. Donc si c'est la solution technologique la plus performante qui sera toujours privilégiée, à partir du moment où on accuse 2-3 km de retard, on les aura à la fin de la course. Hein.
Et on peut le rattraper.
Quand vous arrivez le dernier, vous êtes plus au point que celui qui était présent sur le marché très longtemps avant.
Eh ben, Marie Turcan, justement, est arrivée la dernière dans ce studio. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Et elle sera toujours aussi performante pour votre chronique, Marie, où vous allez déconstruire les clichés qui entourent aussi le hacker.
Et oui, si je vous dis un pull à capuche noire, des cernes jusque par terre, des litres de café et des doigts qui tapotent à la vitesse de l'éclair sur un clavier, vous me dites, bien sûr, un hacker.
C'est ça.
C'est comme ça que la fiction les représente depuis des décennies. Il y a les Missions Impossibles, les James Bond, mais aussi à la télé, bien sûr. Personne n'aura échappé à l'incontournable Mr. Robot, la série qui met en scène Elliot Alderson, un informaticien irascible, mais brillant pirate manipulateur.
Et là, j'ai décidé de vous pirater. Vous m'avez...
Je sais que vous avez un site qui s'appelle Les Garçons de Platon.
Je vous demande pardon.
Vous passez par Tor, ce qui permet de rendre les serveurs anonymes. Vous brouillez les pistes au maximum pour que personne vous grille. Mais je vous ai grillé. En fait, le routage en oignon n'est pas aussi anonyme que vous le croyez. Parce que la personne qui contrôle les nœuds de sortie est aussi celle qui contrôle tout le trafic. Ce qui fait donc de moi celui qui contrôle tout.
Quand c'est Elliot Alderson qui le dit, ça fait tout de suite très très peur. Hein. Pourtant, ce qu'énumère ce petit génie de l'informatique n'a rien de vraiment très complexe hein, lorsqu'on s'intéresse vraiment au fonctionnement du dark web. Le navigateur Tor dont il parle est d'ailleurs majoritairement utilisé par des internautes qui se rendent sur des sites tout à fait classiques. En 2020, une étude a montré que seuls 7% utilisaient Tor pour se rendre sur les parties cachées du web. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres sur les mythes que charrie la cybersécurité. Revenons à nos moutons à capuche. Les hackers, par exemple, le sens du mot étant lui-même important, un hacker, cela désigne grossièrement quelqu'un de curieux qui sait contourner certaines barrières informatiques. Mais il n'est pas forcément malveillant. Alors c'est vrai, lorsqu'il nous arrive à Numérama de parler des pirates, certains lecteurs sont prompts à nous rappeler combien tous les hackers ne sont pas de grands méchants. Baptiste Robert ici en sait quelque chose.
C'est vrai que c'est pas un grand méchant, mais c'est pas un grand gentil non plus. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues, Marie, sur les hackers qui sont également fausses ou qui circulent?
Il y a souvent une autre illusion, c'est sur les talents numériques dont disposeraient vraiment certains de ces pirates. De nos jours, pour voler leurs identifiants à quelques citoyens naïfs, il n'y a parfois pas besoin d'avoir recours à des pièges très très sophistiqués. Un simple mail personnalisé peut malheureusement suffire. La confusion vient probablement du mot cybercriminalité. cybercriminalité en lui-même. Il vient de l'anglais cybercrime et qui inspire la gravité. Or, en France, un crime est la plus haute infraction possible, un viol, un meurtre. Ce que font les hackers malveillants s'apparente plus à des délits. Ce n'est pas parce que le vol se fait sur le web qu'il est encore considéré comme plus grave, en tout cas pas pour l'instant. C'est pour cette raison notamment que certains souhaiteraient que l'on parle plutôt de cyberdélinquance que de cybercriminalité. D'ailleurs, on le remarque sur Numérama, lorsqu'on entre en contact avec des hackers peu scrupuleux qui vont revendre des données, ils ont l'air très jeunes, peu appliqués. Tiens, d'ailleurs, à votre avis, une petite question, combien ça vaut, selon vous, 1500 passeports français à la revente en 2022
En bitcoin, en quoi?
Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, c'est 3 000 $. C'est vraiment rien du tout.
Oui.
C'est environ 2 $ le passeport. Oui, vos données personnelles sont déjà tellement dans la nature qu'elles finissent par ne plus rien valoir. Encore un mythe qui s'écroule et pour le coup, celui-ci est bien déprimant.
Merci beaucoup Marie Turcan pour votre chronique qui a déconstruit donc certains clichés stéréotypes et qui a permis de replacer les mots et le vocabulaire en sortant un petit peu de tous ces fantasmes. C'est bien aussi ça l'enjeu, j'imagine, d'une culture numérique, d'une formation que les citoyens doivent avoir, doivent acquérir. Vous en parliez justement tout à l'heure, Nathalie Loiseau. Et est-ce que finalement, un des plus premiers enjeux n'est pas déjà là? C'est-à-dire arriver à faire comprendre aux uns et aux autres, utilisateurs que nous sommes tous, que l'enjeu, c'est celui d'une formation à une culture numérique importante.
C'est en particulier un enjeu en France. Parce que quand il y a une cyberattaque, quand il y a des campagnes de désinformation, quand il y a cette guerre hybride qui nous est menée, premier réflexe qu'on a tous, que fait l'État? Que fait le gouvernement? Éventuellement, quand on est très sophistiqué, qu'on est à France Culture le soir, on dit que fait l'Europe? Mais on s'arrête là. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous? Il y aura une vraie réponse à ces cyberattaques quand elles sont malveillantes, menées par des États pour nous déstabiliser et pas le cyberdélinquant sympathique qui vient d'être décrit il y a 5 minutes. Ça vient de la culture qu'on pourra tous avoir au niveau des plus jeunes et des plus âgés. Souvent, ceux qui se font avoir sont des gens très âgés qui répondent à un mail en donnant leurs identifiants et qui créent une faille. Et la manière d'y répondre aussi, c'est pas une réponse verticale, du haut vers le bas, décidée par le gouvernement qui créerait une agence de plus. Il y a un écosystème des gens comme Baptiste Robert, il y en a, j'allais dire à foison, non malheureusement pas encore. Mais enfin,
je pense qu'il aimerait bien qu'il y en ait plus, qu'il y en ait davantage.
Ma maman m'a dit que j'étais unique après.
C'est leur diversité qui sera intéressante. C'est faire vivre économiquement cet écosystème, le mettre en réseau, oui, mais pas le caporaliser, pas décider à la place de ceux qui peuvent agir, exposer, sensibiliser et riposter à ce type d'attaque de la manière, je dirais, la plus agile, la plus foisonnante possible. Moi, j'ai toujours peur quand on réglemente ou quand on crée une institution publique, qu'on fasse une espèce de très joli éléphant blanc, très français, et qui répondra pas aux besoins. Ce que je souhaite, et ce pourquoi je plaide en Europe, c'est précisément que l'Union européenne puisse financer, parce qu'il y a un énorme sujet de financement, les initiatives indépendantes, qui se voient pas fixer une ligne politique, mais qui nous permettent en quelque sorte d'être vaccinés contre ce virus des cyberattaques.
Donc vous êtes pour une Europe qui est pour moins de régulation alors?
Oui, mais qui
c'est aussi une idée un peu paradoxale.
Qui permettent de faire monter des initiatives citoyennes.
Monter en compétence en tout cas le citoyen.
Et quand ce sont nos démocraties qui sont attaquées, parce que c'est quand même bien ce qui est en train de se passer, répondre de manière démocratique et surtout pas avec les méthodes des autoritaires, parce qu'on n'a pas envie de leur ressembler.
Baptiste Robert.
Alors, je voulais juste faire une aparté, remercier Marie pour la définition du hacker, et c'est qui est la bonne définition de
vous êtes bien trouvé.
Curieux. C'est génial d'entendre ça sur votre radio. Pour reprendre les propos qui ont été dits précédemment, je suis tout à fait d'accord et j'irai même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que la réponse doit être organique, elle est absolument pas verticale, elle est horizontale. Elle doit venir de toutes les franges de la société. On a des personnes âgées qui se font avoir, certes, mais le public plus jeune n'est pas beaucoup plus et autant vulnérable que les autres. Il y a une vraie sensibilisation et on doit mettre l'éducation nationale pleinement dans la question. On doit sensibiliser les professeurs qui ont déjà beaucoup de choses à faire. On doit sensibiliser les élèves, on doit sensibiliser les parents et tout ça doit se faire avec tous les acteurs. Aujourd'hui, on a des associations de journalistes qui font très bien de la sensibilisation, on a des ONG, on a des gens comme moi, effectivement.
On a aussi Yann Bonnet à qui je vais donner le mot de la fin, Baptiste Robert, pour une juste répartition de la parole. Oui. Yann Bonnet, rapidement, très rapidement.
Voilà, c'est le sujet de la sensibilisation, de la formation des talents, il est majeur. Il y aura des pays qui auront la capacité à former massivement et les autres. Et c'est vraiment l'enjeu majeur pour la France. Et on est très motivé au sein du campus cyber pour contribuer dans les prochains mois et former massivement et sensibiliser toute la population à ces enjeux qui sont, encore une fois, majeurs pour notre société.
Voilà, et je reprendrai le début de cette émission. On parlait de collectif pour aller ensemble plus loin. Même si parfois seul, on va plus vite. La vitesse, c'est aussi la durée de cette émission qui approche à grands pas. Mais ça me laisse le temps de remercier celles et ceux qui l'ont préparée. Juliette Deveau à la préparation de cette émission comme chaque semaine, accompagnée d'Héloïse Robert à la réalisation. Ce soir, c'est Camille Mathy qui fêtait son anniversaire et qui le fête toujours. Bon anniversaire Camille, et à la technique Sofiane Agdib. Le meilleur des mondes, bon anniversaire, c'est terminé.